Donc moi c'est Emma, j'ai 24 ans, donc j'ai fait un BTS ESF avant de pouvoir arriver sur l'IRS pour faire le DEC ESF.
Donc un BTS et économie sociale et familiale.
Et familiale, pardon. Et avant ça j'ai fait un bac pro service de proximité et vie locale et par la suite j'ai pas toujours tout de suite trouvé ma voie. Donc j'ai fait d'abord une licence en psychologie, enfin une première année de licence et après j'ai fait un service civique dans une école primaire.
Voilà. Un parcours très riche.
Oui.
Et pourquoi as-tu choisi cette formation de conseiller ? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir conseillère en économie sociale et familiale ?
Alors, par le biais de mon bac pro, qui était beaucoup visé sur l'accompagnement social, j'ai pu faire des stages qui m'ont aussi beaucoup aidée sur ce choix. Après, je me suis un peu perdue en route. Et je me suis dit que vraiment, c'était le travail que je voulais faire. Je voulais pouvoir accompagner les personnes et travailler vraiment avec les personnes. Et donc, je suis arrivée sur le BTS économie sociale familiale. Et le DE, c'est la suite logique de ce parcours.
Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça apporte en plus de faire une année de plus ? Que tu peux travailler avec ton BTS, mais qu'est-ce qui fait que tu as voulu faire une année en plus du BTS ?
L'année en plus, déjà pour avoir la reconnaissance d'être travailleur social et aussi pour trouver du travail plus facilement.
Et puis au niveau de l'insertion professionnelle, c'est peut-être plus facile et la revalorisation, enfin la valorisation au niveau du salaire.
Oui, aussi.
Ouais, ouais.
Et est-ce que tu as trouvé que la marche était autre entre ton bac professionnel et le BTS ou c'était très complémentaire ?
En tout cas, entre le bac pro, vu que moi j'ai eu quand même une grosse période où j'ai eu autre chose entre le bac et le BTS, pas tellement. Après, il faut réussir à être quand même organisé. Hein.
Tu veux dire en BTS ou en DE ?
Non, la question c'était par rapport au bac pro et
oui,
le BTS.
Oui, c'est voilà. Ça. Ouais,
d'accord. Et sur le DE, là, tu penses que. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre ? Qu'est-ce que tu as appris ou,
Bah pareil, il faut vraiment être très très organisé personnellement, surtout si on fait le DE en apprentissage. C'est vraiment essentiel d'être très organisé. Et l'organisation en fait, il faut vraiment être très organisé perso.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'apprentissage ? Quelles sont les différences d'une suite de formation en apprentissage par rapport à la formation continue ou initiale ?
En apprentissage, c'est déjà on est toujours en entreprise, donc on n'a pas forcément de période de vacances scolaires comme on pourrait l'être en stage. Et après, je pense que c'est aussi intéressant de le faire en apprentissage, car en apprentissage, en fait, tout simplement, enfin après c'est mon propre avis, mais on est plus autonome peut-être plus rapidement, et puis là on est vraiment salarié, donc on est vraiment, je ne sais pas si tu peux dire ça, mais quelqu'un d'à part entière, et c'est plus simple d'apprendre et qu'on nous donne des responsabilités, alors qu'en stage, ce n'est pas forcément le cas tout de suite, ou en tout cas, c'est plus difficile car c'est plus court.
Oui, est-ce que toi, Mathilde, tu peux...
Aussi, parce que la durée d'un contrat d'apprentissage est beaucoup plus longue que celle d'un stage ordinaire. C'est-à-dire que, normalement, on est sur 16 semaines de stage en DE. En contrat d'apprentissage, on est pratiquement sur le double de temps, en fonction de la date de début et de date de fin. Mais voilà, la période, en tout cas, de professionnalisation est bien plus longue. Donc, évidemment, l'acquisition des compétences se fait différemment.
Et donc, le statut, il est différent, en fait, pour les étudiants.
Tout à fait. Tout à fait. Le statut, en tout cas, en ce qui concerne Emma, en tant qu'apprentie, elle a un statut de salarié.
Avec des congés
Avec le droit du travail qui s'applique.
Et un,
tout à fait.
Un salaire ?
Et un salaire.
Okay.
Emma, est-ce que tu peux nous parler de ta formation, comment elle se passe ?
Oui. Je ne sais pas trop par quoi commencer exactement. Enfin, la question est assez large. Mais la formation, donc, elle se passe bien. Elle a débuté en septembre. Pour moi, elle finira en fin octobre. Enfin, du moins, on aura la soutenance du coup du mémoire. Pour ce qui est des épreuves, on a très souvent des TD pour préparer les écrits et les oraux. Donc, on est très, très encadré. Enfin, moi, je trouve qu'on est bien encadré à l'IRS. Et moi, qui étais en MFR avant, je trouve que ça va bien avec parce que j'avais un peu peur d'être lâchée. Donc ici, en tout cas, c'est pas le cas. les formateurs, ils sont quand même assez à l'écoute et assez disponibles si on a besoin, même quand on est en période de stage ou d'apprentissage. Donc, voilà.
Donc tu as des cours très magistraux. Et des cours des cours en TD, donc en groupe, en demi-groupe, comment ça se passe ?
Alors, c'est pas vraiment des cours en TD, c'est plus des accompagnements sur les différentes épreuves. Et après, oui, ce qui est des cours, on a quelques cours magistraux, mais on a aussi beaucoup d'interventions de différents professionnels pour nous présenter en fait différents points comme les mesures de protection judiciaire, la protection de l'enfance, etc. Et c'est aussi hyper intéressant et super riche de pouvoir avoir des intervenants qui nous parlent de leur métier.
Alors du coup, moi, me vient une question par rapport à ma formation. Comme je suis en formation d'assistante de service social, quelle est la différence entre un conseiller économie sociale et familiale et une assistante sociale ?
Très bonne question.
Alors, moi, je dirais que pour les CESF, donc pour les conseillers en économie sociale familiale, nous, on serait plus portés sur le quotidien, contrairement à vous, les ASS. Et également, on fait tous de l'accompagnement social, mais nous, on serait un peu plus portés sur le budget. Ce serait notre spécialité. Et après, c'est un peu... Enfin, ça se rejoint, en fait. C'est complémentaire. Hein.
Oui, si je peux me permettre. En effet, ce qui rejoint peut-être la formation d'assistante sociale et de CESF, c'est cette troisième année qui est très axée sur l'accompagnement social. Par contre, c'est vrai que les deux premières années qui sont chez les CESF, le BTS, sont davantage techniques par rapport à la formation d'ASS. Voilà, la formation va être axée sur des données bien plus techniques, comme l'habitat-logement, la consommation. Par rapport aux ASS, chez les ASS, par exemple, en première ou même en début de deuxième année, on aura des cours plus universitaires, par exemple, en psycho, en sociaux. Voilà. C'est peut-être ce qui va venir faire la différence, en tout cas, dans la formation. Après, j'ai envie de dire, sur le terrain, je pense que Emma a bien résumé les choses. La spécificité de la CESF, c'est le budget. Et d'ailleurs, en troisième année, en DE de CESF, il y a quand même un gros module sur l'accompagnement éducatif budgétaire. Et puis, si je peux juste me permettre, et c'était peut-être pas évident pour tout le monde de comprendre, c'est que la formation CESF débute en septembre, mais toutes les épreuves se terminent en juin, sauf une, celle du mémoire, qui a lieu au mois d'octobre. Donc c'est aussi pour cette raison que la formation se termine fin octobre.
Merci. Emma, est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes le plus dans ta formation et même dans le métier ?
Très bonne question. ce que j'aime le plus, je dirais que c'est le partage avec les personnes qu'on rencontre. Enfin, c'est vraiment super riche, en fait, les échanges qu'on peut avoir avec les personnes. Et je trouve que ça nous aide aussi à avoir une certaine ouverture d'esprit. Et en fait, j'aime les gens. Je ne sais pas si on peut dire ça.
Si.
T'es au bon endroit, du coup.
Ok. Et tu fais ton apprentissage où, Emma, là ?
Je fais mon apprentissage dans une association tutélaire.
D'accord.
Donc auprès de mandataires judiciaires pour la protection des majeurs.
C'est les personnes qui sont sous curatelle ou tutelle ?
C'est ça. C'est sauvegarde de justice.
Et sauvegarde de justice. Putain, t'as bien appris ton cours.
Et je dis un gros mot.
Comment est-ce que tu envisages la suite de ton activité professionnelle ? Dans quel secteur ?
Alors, mon rêve absolu serait d'être embauchée dans l'association où je travaille. Car,
le message est passé.
Vu que je suis en apprentissage, je me dis qu'il y a potentiellement aussi une idée derrière la tête de l'employeur de pouvoir prendre l'apprenti qu'il a formé pendant un an. Et ensuite, j'ai pas trop d'autres idées. Je sais pas, j'irai où le vent me mène.
Au niveau de l'employabilité des CESF, est-ce que tu peux nous dire ?
Oui, en effet. Alors, c'est pas de manière systématique, mais très souvent, les étudiants qui sont pris en contrat d'apprentissage, à l'issue, à la fin du contrat d'apprentissage, sont salariés de l'entreprise et sont embauchés soit en CDI, soit en CDD, puisque ça permet aussi à une entreprise de former pendant un an un étudiant à la politique institutionnelle et aux méthodes de travail de l'institution. Pour les autres étudiants et même ceux qui sont en contrat d'apprentissage mais qui ne se verraient pas employés après par l'entreprise, sont dans les mois qui suivent la formation, la diplomation, embauchés sur le terrain. Surtout qu'aujourd'hui, avec la réforme des diplômes, ils peuvent postuler quand même sur des postes de travailleur social et pas forcément de CVSF. Ouais. Ça laisse quand même plus de possibilités pour postuler.
Donc maintenant, nous allons pouvoir entendre une...
Alors, c'est une visiteuse, on va dire. Ouais.
Une future étudiante peut-être de l'IRFS.
Qui s'appelle
Lorraine.
Enchantée Lorraine.
Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Alors Lorraine, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Quelle formation t'intéresse?
Alors aujourd'hui, je suis là pour visiter le centre ici et voir peut-être l'année prochaine faire mon DE de CESF ici.
Donc cette année, tu es en BTS?
BTS ESF aussi.
D'accord.
À Tours.
Et qu'est-ce qui fait que tu viennes à l'IRFS?
Pour moi, c'est la suite logique de faire le DE pour avoir, comme disait Emma, la reconnaissance de travailleur social, le salaire et tout ce qui va avec. Donc voilà, pour moi, c'est logique.
Et qu'est-ce que tu penses que tu vas apprendre en DE?
Alors, je ne sais pas encore.
Est-ce que tu as une petite idée de ce que tu attends à travers cette troisième année?
Je sais que ça sera beaucoup plus théorique, ça sera plus sur le budget que le BTS, parce que le BTS est assez vaste. On a beaucoup d'autres cours à côté. Mais voilà, et puis faire peut-être un autre apprentissage dans une autre structure, découvrir un autre public, une autre structure. Donc, ouais.
Et donc là, pour le DE, tu passes par Parcoursup?
Non.
Effectivement, le formulaire est à retirer sur le site de l'IRFS. Mm. Il n'y a pas de Parcoursup pour entrer en DECV, enfin, pour en faire une demande d'entrée en DECVSF.
Alors, question du public, puisque nous sommes sur Radio Campus Tours, donc radio étudiante au sens large, peut-être parmi nos auditeurs, il y a certains et certaines qui se demandent ce qu'est une tutelle et une curatelle. Ah ah. Alors je me tourne vers vous, est-ce que quelqu'un peut nous en dire plus?
Emma?
Agathe peut-être?
rapidement, parce que mon cours normalement il fait 3h30. Une tutelle et une curatelle, c'est une mesure de protection juridique, la protection des majeurs. Donc c'est toute personne qui a une altération de ses facultés mentales, constatée par un médecin expert, qui va bénéficier ou être sous mesure de protection juridique. Et en fonction du niveau d'altération, le juge des tutelles va ordonner une mesure de curatelle simple, de curatelle renforcée ou de tutelle, ou même une sauvegarde de justice. Après cette ordonnance judiciaire, une association tutélaire ou un mandataire judiciaire libéral va exercer la mesure. Et donc, en fonction de la mesure... va gérer son budget, avoir accès et contrôler son budget, ou pas. Hein, curatelle simple, il n'y a pas de contrôle de budget courant, il y a un contrôle sur les comptes de placement. Et en fonction aussi de la mesure, l'assister dans tous les actes de la vie civile, ou, pour la tutelle par exemple, le représenter dans les actes de la vie civile. Voilà, et ça c'est des travailleurs sociaux, parce que c'est des mesures judiciaires, mais qui nécessitent un accompagnement social, en fait. Donc il y a beaucoup de juridique, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement social autour de ces mesures. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de travailleurs sociaux dans les associations tutélaires.
Alors, je me permets une autre question pour nos professionnels concernés. Donc, par exemple, il y a une dame ou un monsieur qui est sous tutelle. On vous l'adresse. Donc, en fait, en quoi consiste son accompagnement? Donc là, je rappelle qu'on est sur Radio Campus et qu'on a des étudiants qui ne connaissent pas du tout votre domaine de compétences. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que vous dites à cette personne? Vous la prenez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais à faire ses courses, comment ça se passe?
Alors, en tout cas, là où je travaille, par exemple, on ne pourra pas forcément accompagner des personnes faire leurs courses parce que ce ne sera pas forcément dans nos missions. Mais par contre, nos missions seront plus de les orienter ou de les accompagner, par exemple, à leur premier rendez-vous près d'un SAMSA, donc près d'un service qui pourrait faire appel à des personnes qui pourraient l'accompagner faire ses courses. Après, je n'ai pas trop entendu ta première question exacte, pardon.
C'est, par exemple, il y a une personne qui est sous tutelle, on vous l'adresse. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous travaillez? Est-ce qu'il y a des dossiers à faire? Est-ce qu'il y a des... Quels outils vous utilisez pour faire votre travail?
Ok, merci d'avoir répété. Donc, quand la personne sous tutelle nous est adressée par le juge, on fait une ouverture de mesure. Donc après, selon là où on travaille, ça se passe différemment. Mais par exemple, dans mon service, ce sera le mandataire qui est mandaté donc pour la personne qui fera son ouverture de mesure, où il y aura un tas de dossiers à remplir, par exemple un inventaire à faire, un DPM, donc c'est le projet de la personne aussi à remplir avec elle. Et par la suite, après, on travaille sur les différents points que la personne, où la personne veut aller, tout en gardant dans l'esprit qu'il faut aller vers l'autonomie au plus possible. Et voilà, en fait.
Alors, mais elle est super intéressante, cette question, Mélissa. Mais elle est hyper dense, en fait, oui. Hein, parce que c'est très différent, en fait, si tu es en mesure de curatelle simple ou curatelle renforcée ou tutelle. Le mandataire, il ne va pas agir de la même manière parce que ses missions ne vont pas être les mêmes. Et donc, il ne va pas pouvoir... Enfin, il va parfois prendre le contrôle des comptes et parfois pas. Il va parfois co-signer certains actes et parfois pas. Ou alors, parfois, certains actes ne pourront être signés que par le tuteur. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une émission là-dessus avec nos étudiants. Bientôt.
Champagne.
Ah, ok.
Je reviens aux questions pour Lorraine. Je voulais savoir, avant de faire ton BTS, dans quel bac tu étais ?
J'étais en bac pro aide, accompagnement, soins et services à la personne en Boise.
Voilà, donc c'est juste pour marquer un peu, mettre en valeur les bacs professionnels qui permettent par la suite aussi d'avoir de très belles carrières et on peut continuer ses études après un bac professionnel, oui, ouais. Car c'est des filières qui peuvent souffrir un peu de dévalorisation. Donc voilà, oui, donc, ouais, vous êtes des très beaux exemples.
Bien vu, Camille. Merci à tous.
Merci.
À bientôt.
Merci. Au revoir.